vie secrète, la vie secrète, la vie secrète des geekettes,
la vie secrète
des geekettes,
la vie secrète
des geekettes.
Bonjour et bienvenue à la vie secrète des geekettes, la vie secrète des geekettes. C'est un podcast divertissant et diversifié. C'est quoi ça? Ben à chaque 3 semaines, les geekettes, c'est nous autres, ça, on vous parle d'un sujet de notre choix, de la culture populaire ou locale ou autre, mais on vous jase aussi de
plein d'autres affaires!
Oh oui! Alors aujourd'hui au Geekette, à ce soir ou ce matin, peu importe le temps que vous nous écoutez, je suis votre animatrice Fanny Grégoire et je suis en compagnie de Chloé, qui est à ma droite. Allô,
allô
Chloé!
Allô!
Comment ça va?
Ça va bien. Je viens de finir mes marchés de Noël, fait que je peux enfin un peu semi-me reposer.
Ouais, parce qu'on a un épisode semi-thème Noël aujourd'hui, donc ça va un petit peu dans le thème, là. Tu termines tes marchés de Noël.
Ouais, c'est ça. C'est pas mal, là, je suis en repos. Je vais commencer mes bricolages de Noël maintenant. Donc, ouais. Fini la production, je vais pouvoir commencer des emballages de... emballages de cadeaux.
La deuxième partie.
Ouais, c'est ça. Et puis la voix que vous venez d'entendre, c'est Jenny. Allô, oui. Jenny!
Allô!
Ça fait longtemps qu'on ne t'a pas entendu.
Ça fait un petit bout que je suis pas venue.
Mais oui! T'es toujours vivante comme Jerry Boulet le dirait.
Toujours vivante.
Je peux pas mettre la toune, malheureusement, à cause des droits d'auteur, mais je l'aurais faite.
Oui, je suis toujours en vie, mais on se rappellera que la session universitaire peut être difficile. Puis ça en est une, pas pire, tough. Pas pire, tough.
Ben oui, écoute, on est content de te savoir parmi nous. Hey, je vous ai même pas demandé c'était quoi vos chroniques, alors je vais revenir vers Chloé.
Oh yeah!
Moi, allô, surprise!
Ouais, moi, je vais vous parler de Louise Bourgeois aujourd'hui, une artiste qui a été connue de son vivant à peu près vers ses 80 ans, puis surtout connue pour avoir fait une immense installation. Cette installation-là a été faite plusieurs fois, mais c'est une immense araignée devant des musées, dont celui de Toronto, que peut-être certains d'entre vous avez vu. Une immense araignée qui s'appelle Maman. Donc, je vais vous parler de de cet artiste-là. Puis, je vais vous parler aussi un petit peu de Kinda World, qui est mon jeu de téléphone préféré, relax, en ce moment.
Oui, on va en parler dans les nouvelles de ton jeu. Oh, mais c'est correct, il n'y a pas de problème. Puis, écoute, Jenny, tu vas nous parler de quoi, toi, aujourd'hui, dans cet épisode quasi-Noël?
Quasi-Noël. Moi, je vais vous faire une suggestion lecture pour le temps des fêtes, dans le fond. Là. C'est le livre Project Hail Mary, qui est un livre de Andy... c'est bon, il est loin, mon nom. Andy Weir. Quelque chose comme ça, là, W-E-I-R. Là. Mon anglais est comme... c'est un livre sci-fi post-apo, là. Tu sais, comme à la Jenny, là.
On est loin du Lisa Jewell, c'est-tu elle?
Oui, c'était ça la dernière fois. On voit bien que ça se répète, mon style de chronique. J'ai pas le temps de faire autre chose que lire des livres.
Ben, c'est correct. Écoute, moi, ça me tente de recommencer à lire, là. Donc, je vais écouter ça, ta chronique. Puis moi, suite à ma dernière chronique, j'avais parlé de l'épisode de le film d'animation de Charlie Brown, de Noël. Là, je sais que c'est pas le bon titre, là. Je l'ai dit, vous savez lequel.
On comprend ce que tu parles.
Mais suite à avoir discuté avec Chloé, on avait parlé des 9 vies de Garfield.
Oh, yeah.
The 9 Lives of Garfield, en anglais, j'imagine. Donc, je vais vous parler de ça pour cet épisode à thème cozy Noël.
Ouais. Et j'ai tellement fait porter attention, en plus, en réécoutant les cassettes, la cassette de Charlie Brown. Là. J'écoutais les paroles, là, que tu disais la toune qui a été composée
sur un bout de papier.
Exactement, mais c'est full, cadeau, en fait. C'est genre vraiment Jésus, nanana, c'est très simple.
Oui, il y a des gros... Ça, je n'ai pas mentionné dans ma chronique, mais effectivement, il y a des gros bouts de catholicisme super intense. Oui,
bien, tu sais, ça devait être la voie facile, tu sais, j'imagine.
Puis, mais Schultz aussi, il était... C'est comme une partie 2 de ma chronique, là, mais Schultz, il était très croyant. Il y avait beaucoup de trucs du genre là, dans ses croyances spirituelles, personnelles. Donc, c'est pour ça que ça sortait. Mais oui, écoute, c'est sa vision.
Mais oui, tout le monde peut être spirituel, croyant à sa façon.
Oui, oui. T'as une histoire de Noël, fait qu'on sait ça, c'est Jésus.
Ben oui, bonne fête Jésus.
Le sapin, peu importe vos croyances, Yule, Tide, je sais pas c'est quoi, là.
Oui, le temps des fêtes.
Oui, le temps des fêtes, voilà.
Mais là, parlant de temps des fêtes, là, j'avais comme une semi-chronique, pas chronique, OK? Parce que là, ça fait longtemps que je suis pas venue, puis j'ai pas eu le temps de faire grand-chose, sauf travailler sur mes projets d'études, puis... Puis je mens un peu quand je dis ça, dans le fond, parce que j'ai vraiment trouvé le temps de faire involontairement un marathon pré-Noël.
Ah oui?
On est dans le thème, OK. Mon marathon pré-Noël, que probablement plusieurs personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux ont vu, je me suis, sans le vouloir, je me suis fait un décompte que j'ai nommé un show par semaine d'ici Noël.
Wow. Oui, c'est
fait
vrai.
À wow. Toutes les semaines, depuis 9 semaines, je suis allée voir un show différent. Là, l'affaire, c'est que cette semaine, je devais avoir une dixième événement avant Noël, parce qu'on se rappellera que Noël,
Attends,
c'est
est-ce que c'est
dimanche.
Toutes des shows de musique?
C'est ça l'affaire. C'est pas toutes des shows de musique, c'est des shows de style varié puis tout. Mais l'affaire, c'est que cette semaine, je devais aller à Noël dans le parc. Le problème, c'est que je travaille. Fait que, il n'y en aura pas de dixième avant Noël. Fait que ça s'est arrêté la semaine passée. Mais mettons que je vous fais un blitz de ce que j'ai vu, OK?
Ouais, j'aimerais ça, ouais.
Le 17 octobre, j'étais allée à... Je peux pas croire que ça s'appelle Beanfield à cette heure, mais au Théâtre Corona, j'ai vu Intervals qui faisait la première partie de Tesseract. Intervals, c'est de la musique que j'écoute, c'est de l'instrumental, le métal instrumental que j'écoute pendant que j'étudie, puis c'est vraiment comme... Ça remplit mon espace mental. Okay? Mm-hmm. C'est vraiment excellent. J'ai un peu fangirl, j'ai pris une photo avec le guitariste.
Est-ce que tu connais
guitariste.
Non, je connais pas.
C'est un band de Toronto, ils vont venir au printemps, en fait. Après ça, le 24 octobre, j'ai vu Polyphia au MTLUS. On reste dans le métal instrumental. Okay. Le 3 novembre, j'ai vu The Cat Empire. On change complètement de registre. Le 10 novembre, je suis allée voir Martyr au Metal Fest de Trois-Rivières. On retourne dans mon amour pour le métal.
Ouais.
Là, on va changer un peu. Là. Pour la 5e semaine, je suis allée voir Philippe Braque le 18 novembre au MTLUS. Je suis allée voir Baroness le 20 novembre au théâtre Corona, Beanfield, whatever. Le 1er décembre, j'étais allée voir Carquois au MTLUS. Le 8 décembre, je suis allée voir Elisapi à l'usine C. Ça, c'était vraiment très cool. C'était vraiment le fun parce qu'elle a fait un album complet de hits radio dans sa langue natale.
C'est vrai, j'ai entendu parler.
Puis en show, c'était incroyable. Puis il y a vraiment eu des passes où les musiciens sont partis à un trip de jazz.
Wow.
Comme c'était. J'ai pas écouté l'album, je connaissais quand même le rythme parce que...
Tu reconnais les tunes.
Je reconnaissais les tunes, mais en aucun temps, j'avais juste la vraie tune qui me revenait en tête. J'étais tellement submergée par ce qui se passait sur scène, j'étais complètement comblée.
Mais est-ce que c'était l'inuktitut, sa langue, ou...
C'est vraiment ma chum qui m'a traînée, puis j'en la remercie énormément. Je ne saurais répondre à cette... Je pense, non. Je sais pas. Bref, googlez. Je vais pas dire de la merde. Je vais pas le faire. Puis, ça s'est terminé, en fait, la semaine passée. Je suis allée voir... c'est le seul show qui n'est pas un show de musique que je suis allée voir. Jeudi passé, je suis allée voir la captation en direct de l'heure de Pierre Lecrassine à la dernière de C'est drôle de jeudi au Café ou Collunch. Fait que ça l'a varié un peu, puis c'était ça. Ça a terminé ma série de un show par semaine d'ici.
Avec un peu d'humour.
Il va-t-on en faire d'autres, Pierre-Luc?
On verra.
OK, il l'a pas dit, là.
Je sais pas trop, en fait, mais je suis pas mal sûre que d'autres projets qui s'en viennent. Il parlait cette semaine, justement, d'une nouvelle captation, là, qui est en train de préparer, puis tout, là. Fait que restez à l'affût, là. C'est vraiment une personne qui est proche de son public, puis tout, là. Fait que j'aime beaucoup l'encourager.
Allez voir sa page Facebook.
Yep, absolument. Pierre-Luc Rassin, puis tout, puis tout.
Ah oui.
Mais c'est trop cool, Jenny. C'est comme un calendrier de l'avant que tu t'es fait
à
toi-même.
Mais c'est inconscient, c'est ça qui est arrivé. C'est qu'à un moment donné, j'ai regardé mon calendrier et j'ai fait comme. Mais j'ai un show par semaine d'ici Noël.
C'est vraiment une belle tradition.
c'est super bien parce qu'en ce moment, en plus, c'est vraiment difficile pour les spectacles, les salles de diffusion, d'avoir des gens dans leur salle.
C'est vraiment une belle façon d'amener du sport.
Donc, ouais, vraiment. Là.
Puis j'ai aussi acheté 500 $ de billets de show pour l'année prochaine.
Bonne
Noël! Joyeux Noël!
Ben écoute, on va continuer ça avec les nouvelles des Geekettes.
Oui.
Les nouvelles des Geekettes, c'est nous autres, ça. Ouais. Alors, qui a une nouvelle ici? Chloé, t'avais-tu une nouvelle?
Ben oui, je voulais vous parler d'un petit jeu que une de mes amies m'a parlé, Raphaël. Elle m'a parlé d'un jeu qui s'appelle A Kind of World. Puis en fait, c'est un jeu vraiment simple. Tu fais juste jouer un peu le matin, un peu le soir. T'as des plantes que tu dois arroser. Puis des façons, mettons, de booster ton eau, c'est de nommer... T'as des petits jeux que tu peux faire, dont nommer tes émotions. Tu peux écrire de la gratitude, mettons, ça veut dire pourquoi... qu'est-ce que la nature te rend, comment la nature te rend gratitude aujourd'hui. C'est en anglais, fait que là, on dirait que je traduis dans ma tête.
Comment veux-tu avoir la bienveillance, des choses comme ça.
Oui, c'est ça. Ça va te demander des petites choses à écrire. Tu as un petit jardin où tu peux avoir des plantes de tes amis. Fait que les autres personnes qui jouent à Kind of World, tu peux prendre leur code. Fait que tu as leur petite plante dans ton jardin que tu peux arroser. Puis cette semaine, ils ont fait un gros update où là, tu pouvais avoir l'expédition de Fern, qui est un des personnages de l'aventure. Puis ce personnage-là, c'est une espèce d'orignal. Puis ce qui est cool, là, ce jeu-là, c'est que ce personnage-là, c'est un personnage non-binaire. Fait que je trouvais ça cool qu'il y a ils sont vraiment ouverts cool, là-dessus. Ouais. Faut au self-care, puis vraiment...
La diversité.
Là, c'est vraiment un jeu adorable qui est fait pour que tu décroches, puis que tu peux juste jouer juste 10 minutes le matin, 10 minutes le soir, puis tes plantes, ils meurent jamais. C'est fait pour que... Même si tu joues pas pendant une couple de jours, c'est ça, tes plantes, ils vont jamais mourir.
Yes.
Puis ça te permet, à chaque fois que tes plantes grossissent, ça donne des items de plus, tu peux décorer ta maison. Puis c'est mignon. Donc c'est tout, c'est vraiment un petit calendrier de l'Avent, un petit bonbon matin, soir. Apple Store, là, tu peux l'avoir, je pense, sur tous les cellulaires.
Sur Android aussi, je pense. C'est gratuit, non?
Oui, c'est 100% gratuit. La seule façon que tu peux supporter le projet, c'est en achetant des pots pour les plantes.
Ah ouais, OK. Donc
mais sinon, le jeu est 100% gratuit. Ils veulent vraiment que ça reste accessible. Puis tout ça, genre, tu sens qu'il y a vraiment un effort de communauté, justement, cette semaine avec l'expédition. Il était vraiment fort sur les réseaux sociaux. Puis il y avait plein d'items que tu pouvais avoir faits qui avaient été faits par d'autres designers de d'autres jeux vidéo. Fait que tu voyais qu'ils se faisaient des clins d'œil entre créateurs. Tu sais, il y avait un esprit vraiment le fun. Puis c'est un petit coup de cœur, ce jeu-là.
Puis est-ce que tu sais, les producteurs, c'est-tu comme de où qu'ils viennent?
Je pense que c'est américain. Mais j'ai pas full creusé là-dedans, mais ils ont l'air tout cute. Ils font tout le temps des TikTok, puis ils jasent, puis ils parlent des projets.
Ils font des TikTok aussi pour parler de leur jeu.
Oui, à fond, ils se présentent, puis ils parlent de l'importance d'avoir des jeux qui permettent de relaxer, de décrocher.
Oui, vraiment.
Les gens qui ont
de
l'anxiété.
Ouais.
Parce que justement, ça l'aide à prendre conscience de tes émotions, puis de prendre soin d'une plante. Puis il y a des personnages qui ont des situations, mettons, difficiles, puis là, tu peux leur donner des conseils, là, mettons, l'hérisson qui n'est pas très social, puis là, tu vas dire, genre, c'est correct.
C'est tellement cute.
Non, d'être gêné ou d'être awkwardly social.
Mais c'est ça qui est drôle, parce que les jeux vidéo, des fois, les gens, ils vont dire, ah, mais moi, je joue pas aux jeux vidéo, mais c'est parce qu'il y a un jeu vidéo pour tout le monde maintenant. Là, c'est fou, là.
Oui.
C'est un monde.
Ouais, moi, j'ai longtemps cru que c'était pas fait pour moi, les jeux vidéo, avant de découvrir Animal Crossing, puis de découvrir qu'il y avait des jeux qui étaient vraiment sans performance. Les gens qui aiment pas là, ce qui va vite, n'importe quel petit stress là, sur la dent, il n'y en a aucun saut. Puis la musique est vraiment relaxe, là, même que tu peux écouter la playlist sur YouTube parce que c'est comme du lo-fi parfait pour travailler. Là.
C'est parfait, ça.
Ouais.
Ben, est-ce que tu peux répéter le nom?
C'est A Kinder World, donc super. Un monde plus gentil.
Et toi, Jenny, tu as une nouvelle?
Ben oui, j'ai une nouvelle. Écoutez, si vous voulez encore une fois voir notre magnifique Lulu en prestation, il y a le Bagel Burlesque Expo qui va avoir lieu le 26-27 avril 2024. Puis en ce moment, jusqu'au 15 février, les billets sont seulement 30 $. C'est une aubaine, parce qu'après ça, ça va être 40. Économisez un beau 10 $. Allez voir des belles personnes vous effeuiller sur scène.
Oui, c'est toujours excellent.
C'est un 2-1 incroyable. Moi, je pense que je vais prendre mon billet.
Sérieusement, oui. C'est vraiment un show. Elle a des performeurs qui proviennent de partout internationalement, pas juste de la scène locale, burlesque à Montréal. Puis c'est vraiment un super de bon show. Si tu cherches une petite date avec ton copain, copine,
fun,
ou juste une première date, whatever.
Ça part tellement dégêné le monde, en plus. Là.
Ou genre, les geekettes, nous autres, on se prend genre une table, puis on y va tous, une gang ensemble.
Très dans pour ça.
Ouais, j'envoie un message aux autres geekettes en même temps. Sérieusement, j'avais été la dernière fois avec Chantal, puis on avait vraiment trippé. Ouais. Puis,
c'est tellement fun, ça fait crier, là. Puis
Ah, tu as déjà vu un show burlesque?
Ouais, j'adore ça. En plus, en fin de semaine, le dernier marché que j'ai fait, le Montreal Maker Market, c'était un marché, le Naughty Market, qui avait un show burlesque. Le samedi soir, il y avait 4 performeuses qui ont fait des petits shows à travers le sous-sol d'église. Il y avait le marché.
C'est un défi quand même.
Ah ouais, c'était Neon on Burlesque. Là. C'était, j'avais jamais vu ça, mais c'était incroyable. C'était vraiment nice pour vrai. C'était très hétéroclite comme mix, mais ça fitait des artistes burlesques. C'était beaucoup d'artistes alternatifs, fait que ça fitait dans le... Dans la vibe, c'était cool. Ouais. Ah, cool. J'adore le burlesque. Ouais. C'est libérateur.
Fait que vous avez jusqu'au 15 février. Ouais. Donc, achetez vos billets pas chers pour le Bagel Girls Expo.
Ouais, puis moi, écoute, j'ai une autre nouvelle. Ça, j'ai eu ça dans le inbox de la videguiquette@gmail.com, videguiquette avec un S. Si vous avez des nouvelles, il y a une nouvelle plateforme qui provient, c'est une initiative du FIFA, c'est pas le truc de football, c'est le Festival international de films sur les arts. Là, je me trompe peut-être dans l'acronyme, là. Mais ils ont une nouvelle plateforme qui s'appelle art.film, art avec un S à la fin, point film. Puis c'est super le fun parce que c'est plus de 600 films qui vont être disponibles cette année, dont un avec... c'est des films sur l'art, donc tu as plusieurs documentaires. Ah. Tu vas avoir beaucoup de films qui ont été diffusés lors du Festival du film sur l'art à Montréal. Puis c'est ça, c'est tout dans le fond, c'est plusieurs de ces documentaires-là que t'as pas toujours, tu sais pas où aller les chercher, tu sais pas quand ils vont être diffusés ailleurs, c'est vraiment, il y a des petites pépites là-dessus, puis je trouvais ça super intéressant parce que c'est vraiment pas cher non plus pour un abonnement annuel, c'est 79$ par année. J'étais comme...
C'est pas super, ça!
Pas super! Puis tu sais, pour des choses vraiment que tu cherches vraiment précises, puis en plus, ben là, tu sais, t'encourages l'art aussi, là, tu sais, il y a aussi ça qui va avec, puis il
c'est,
va...
C'est tout type d'art, là, l'art vivant, autant que de...
Tout, t'as même, là, justement, j'avais noté, parce que nous autres, on est des grandes fans de Jamie Lee Curtis, ici, au Geekette, là, t'as justement un documentaire, là, qui est fait, là, sur elle, là, justement, ça s'appelle « Un cri de liberté à Hollywood » de Valérie Jourdan, donc, ça, c'est celui-là, j'avais, je serais comme vraiment intéressée de le voir. Donc, c'était ma petite... des fois, je reçois des affaires dans le courriel des geekettes, puis j'en parle aux geekettes. Hein?
Ben oui,
donc, si vous avez des nouvelles... donc, si vous avez des nouvelles, des revues de presse, n'hésitez pas à nous les envoyer. Puis j'en parle quand ça... Je crois que ça peut intéresser nos auditrices, auditeurs, tout ce monde-là, ce beau monde-là, vous autres. Donc, ça, c'était ma nouvelle. Puis j'aurai une dernière nouvelle.
Yes. Vas-y, je t'écoute.
Un peu Noël, vous savez. Moi, là, j'ai comme un genre de... Là, j'ai le terme en anglais... curse là, sur moi, comme quoi que je ne réussis jamais mon eggnog de Noël. La recette est sur le site web de Geekette, je vais la repartager. Donc, si vous cherchez eggnog de Noël, Geekette, vous avez le trouvé, c'est sur le blog, là, c'est une ancienne... pas sur le blog, là, mais ça, je pense que c'est dans un truc d'épisode. Bref, je vais vous repartager ça dans les show notes des Geekettes, là, dans vos notes là, de Apple Podcasts ou Spotify. Vous allez pouvoir l'essayer et voir si vous, à la maison, vous la réussissez, ma fameuse recette de eggnog végétarienne que personne n'aimait. Non, vegan. Faut que je fasse attention à mes mots. Là. Vegan. Recette de eggnog végétarienne que Geneviève, une autre des Geekettes, avait réussi. Bref, c'est un gros insight de Geekettes que je voulais parler rapidement.
Ah oui, j'ai entendu parler de cette histoire d'eggnog aussi. Là.
Oh, même j'y en tant que bébé. Toujours Geekette. Pas goûté. J'attends le jour qu'on m'en serve.
Sincèrement, je pense que je l'avais juste moffé. J'avais, tu sais, des fois, moi, je suis le genre de personne à changer les trucs dans les recettes. Fait que je pense que c'est un peu ma faute, tu sais.
Je fais pareil. Ah, ça, on peut prendre ça à c'est place. Il n'y a pas de problème.
C'est pas assez déchiqueté.
Ça
là,
changera
pas
rien.
Grave.
Ça changera rien.
Mais non, ça change les affaires. Oh, je vais mettre ça à la place de. Non, non, c'est l'ingrédient magique de la recette. Donc, suivez la recette à la lettre et ça va être bon. Donc, c'est ma dernière nouvelle. Voilà.
La librairie Z aime la bande dessinée et ils sont fiers de vous présenter cet épisode de La vie secrète des geekettes. Que vous recherchiez de la bande dessinée américaine, européenne ou québécoise, la librairie Z possède de tout pour satisfaire vos envies de lecture diversifiées. Librairie Z, située au 3420 rue Ontario Est. Visitez leur site web librairiez.com.
Bon, Chloé, aujourd'hui, là, t'avais une chronique là, d'art. Là. Parle-nous donc de ça, là, de l'art.
On connaît rien à ça, nous autres.
On connaît rien à l'art.
Aujourd'hui, je parle de Louise Bourgeois. Donc, c'est une artiste qui est peut-être un grade C en termes de artiste connu, genre, mettons, là.
C'est quoi un grade C?
Je sais pas, là, je viens d'inventer ça, là, mais okay, mettons qu'on dirait que A, c'est Picasso.
OK,
puis mettons, genre... c'est hyper underground, tu sais. Okay. Fait que c'est peut-être pas l'artiste la plus underground, mais je suis convaincue qu'il y a plusieurs personnes qui nous écoutent, qui connaissent un peu Louise Bourgeois, mais peut-être pas beaucoup. Moi, j'avais déjà vu, c'est ça, son araignée, quand j'avais été au musée d'Ottawa il y a quelques années. Il y avait une expo de Frida Kahlo. J'ai eu la chance de me rendre pour aller la voir. Elle, qui est pas mal plus un grade A.
Ouais, qui
est
un A.
C'est ça. Mais là, j'aime ça aujourd'hui, dans le cadre de la chronique, vous parlez des artistes qu'on parle un peu moins. Fait que c'est pour ça que je voulais vous parler de cette dame. Donc, on y va, on se lance, là. Je vous lance ça. Donc, C'est une Louise Bourgeois. Elle est née le 25 décembre en 1911. Donc, on est quand même vraiment tôt.
Oui. Vraiment tôt. C'est mon grand-père, ça.
Oui, c'était une Capricorne. Puis vous allez voir, c'est vraiment une hard worker, comme le sont souvent les Capricornes. C'est vraiment une femme qui travaillait vraiment fort, puis vraiment déterminée, vraiment fonceuse. Puis c'est ça. Donc, elle est née à Paris. Dans une famille de restaurateurs de tapisseries. Donc, elle avait une belle grande maison, une famille assez bourgeoise dans la banlieue de Paris, a choisi le roi. Puis, elle avait vraiment tout pour choisir le roi. Oh, ça me fait rire.
Oui, j'ai vraiment fait comme choisir le roi, vraiment.
Choisir le roi, c'est choisi, Tradignon, le choisi, Tradignon,
les
roi.
Les noms des villes en France sont tout le temps bien recherchés quand même.
En même temps, nous autres, c'est tous des saints quelque chose. Fait
oui, c'est vrai. On peut pas mieux, là.
Donc, elle a grandi là. Puis son père était... elle a deux siblings plus grands qu'elle. Elle a un frère et une sœur. Puis ses parents, ça, c'était pas la super harmonie. Son père, il était vraiment... c'était vraiment un bully, là. Il était vraiment... Elle le décrivait comme tyrannique. Il était pas... Elle parle pas vraiment de violence physique, mais vraiment psychologique. Il était du genre à table, à envoyer des flèches à tout le monde. Puis il était... Elle se paraît vraiment... Très
super,
méchant.
Super agréable.
Oui, exactement. Puis, vers 10 ans, en fait, Louise a découvre son père. Un peu comme Nikki, là, en fait, c'est drôle, ça ressemble.
Nikki de Saint-Phal.
Elle découvre, oui, exactement, de ma chronique la semaine passée. Mm-hmm. Elle découvre son père qui la trompe avec la gouvernante de la famille, qui était la petite anglaise Chiquita. Puis là, ben là, je vais pas dire Chiquita, là, mais elle était...
T'as
compris. C'est un peu ça que t'as dit pareil, là.
Je suis désolée. Elle était anglaise. Mais c'est ça, elle était jeune, elle était vraiment... J'imagine que... était, je sais pas pour l'époque, c'était quoi jeune, si c'était 16 ans ou 21 ans, là.
13
parce
ans.
Que, c'est ça. Mais c'est ça, reste que c'était pas sa mère. Puis c'était comme vraiment ouvert en plus dans la famille. C'était juste vraiment un climat super toxique.
Ah, ouais.
Puis Louise, sa mère, c'était sa meilleure amie. C'était vraiment avec qui, comme là, c'était son alter. Fait que c'était vraiment... ça a été traumatique pour elle, son enfance. Puis elle va vraiment beaucoup en parler dans ses créations, dans ce qu'elle fait, elle va en revenir beaucoup, beaucoup dans ses œuvres, comme quoi ses traumas, c'est ce qui... En fait, pour elle, l'art, c'est vraiment sa façon de gérer ses traumas toute sa vie. Fait que ça va tout le temps être là. Puis, en 1932, là, elle a 21 ans, donc elle commence à être un peu plus vieille. Puis aussi, c'était une enfant qui était... C'était vraiment une geekette, là. C'était vraiment une fan de l'école, hyper studieuse. Elle adorait apprendre, puis tu sais, elle était hyper minutieuse. Fait qu'évidemment, elle travaillait pour ses parents à restaurer des tapisseries. Puis il donnait des contrats comme... Tu sais, il la mettait vraiment haut dans l'atelier, là, parce qu'elle était hyper minutieuse. Puis sa mère, comme elle savait qu'elle avait un grand talent... plasticien, elle s'est dit qu'elle allait justement l'inscrire puis la motiver à créer de l'art, mais à créer de l'art qui était considéré comme plus noble à cette époque-là, donc pas d'aller dans le textile, mais d'aller dans des grandes sculptures, donc la gravure. Donc c'est pour ça que c'est devenu une plasticienne qui va... Puis là, plasticienne, ça n'a aucun rapport avec la plastine. Bon, j'aime dans tout, était comme...
J'ai plastique.
Il était comme... Elle jouait-tu avec la plastine? Mais non, être artiste plasticienne, en fait, c'est juste que tu vas travailler avec la matière. Donc plasticine, ça vient, je pense, d'un mot qui vient de bouger des affaires, des formes molles, puis de créer des sculptures. Là.
Ouais, ben en fait, dans les matériaux plus rigides, là, les matériaux plastiques, c'est ceux qui sont malléables, qui sont capables de retrouver leur forme.
Ah,
fait que, mettons, l'aluminium, c'est plus... Il y a plus de plastique.
Oui,
c'est
ça. Ben, elle va travailler avec beaucoup de bronze, marbre, bois, métal. Elle va vraiment toucher à beaucoup de sculptures
matière,
différentes.
Là, ouais,
c'est ça, de matière. Mm-hmm. Mais au début de sa vie, elle a fait plein d'écoles, elle va étudier en plein d'affaires différentes, puis elle va étudier aussi en maths. Fait qu'elle va triper sur la géométrie, les mathématiques. Ça va être aussi dans son art, ça va être reflété. Fait qu'il y a vraiment quelque chose de... Tu sais, quand j'ai son côté hard worker de Capricorne, là, tu sais, c'était vraiment une bonne élève, puis elle aimait apprendre.
Très studieuse, très oui. Ravenclaw, là.
Ouais, vraiment. Puis, ouais, à fond. Puis genre, dans... dans ses œuvres aussi, elle va mettre en scène l'école, souvent. Parce que l'école, c'est un milieu pour elle où elle sentait bien, puis elle était heureuse, contrairement à sa maison, qui était comme sa prison d'or, qu'elle a des fois appelée comme ça dans sa vie. Fait que là, c'est ça, elle finit par s'émanciper quand même. Elle va travailler. En fait, elle monte carrément un petit atelier de gravure qu'elle gère tout seul. Wow. Ça, autour de ses 21 ans. Là, fait que très jeune. Puis... elle a comme client Fernand Léger, qui est un artiste visuel vraiment connu de l'époque, qui se met à l'enseigner, il la prend sous son aile, puis il va vraiment l'aider à avoir un coup de plus.
Qu'est-ce qu'on faisait, nous autres, à 21 ans? C'est
comme God, ben, moi, à 21 ans, j'avais un enfant de 3 ans.
Je ne sais pas dans quelle technique j'étais, une des deux.
Technique à quelque part.
Oh, ouais, moi, je pense que je devais travailler au parc safari, je ne sais pas. Là.
Oh, oh!
Genre. C'était pas avec un an, c'était plus un parc. Je devais être genre dans une pharmacie en quelque part, caissière. Ça devait être plus ça.
C'est pas pire, ça.
Chacun sa vie.
L'école de la vie.
Ouais. Donc, ben c'est ça. Elle a fait ses petites gravures. Puis, à 26 ans, elle rencontre l'amour Robert Goldwater, avec qui elle va épouser, qui est un Américain en histoire de l'art. Et donc, 2 ans plus tard, ils vont déménager à New York.
Oh, elle s'est sauvée.
Oui, exact. Ben je pense que... Puis en fait, elle est allée à New York, mais toutes ses premières œuvres, ses grandes sculptures, on voit beaucoup de grandes formes abstraites, des grands... vraiment juste des grandes formes abstraites, longues, molles. Puis plus tard, elle va dire qu'elle décrivait... En fait, elle faisait des sculptures des gens, qu'elle s'ennuyait. Elle s'ennuyait beaucoup des gens, puis ça a été long pour elle admettre le fait qu'elle avait trouvé ça dur de quitter.
Partir,
ouais,
hein?
Exactement.
Ouais. Moi, c'est drôle parce que tu me parles d'un professeur d'histoire, alors j'imagine quelqu'un en brun avec des taches noires sur son veston.
Ouais, ben à cette époque-là, pour vrai, ils sont tous
de même.
Ben pour vrai, ils étaient quand même un peu de même. Il était comme
de
ça un peu.
Mais de
cette époque-là, ouais, c'est ça. Je pense que c'était comme.
Je pense aussi à Indiana Jones là-dedans. Là. Tu sais, lui aussi portait des vestons bruns avec des patchs.
Les tripeux d'histoire maintenant sont habillés dans toutes sortes de façons, là, je veux dire.
Je sais. Je vous aime.
Ils sont geeks aussi.
Les
là.
Gens d'histoire, je vous adore.
Ils sont geeks à leur façon. Je les ai. Ils sont super.
Moi aussi, j'écoute des podcasts d'histoire.
C'est du brun et vert.
Oui, vas-y, je t'ai coupé.
Oui, ben là, c'est bien correct. Donc, c'est ça, ça fait dans les premières sculptures qu'elle va faire. Puis, c'est ça, donc là, elle est à New York. C'est un rebibliothèque. Encore une fois, elle dit qu'elle passe à capote sur la bibliothèque de New York. Elle passe ses journées-là à lire. Elle veut tout le temps aller plus loin, puis elle vit dans un petit appartement. Puis elle va avoir 3 garçons avec Robert. Mm. Puis au début, elle a même la difficulté à trouver la place pour peinturer. Elle va longtemps peinturer sur son toit. Pas peinturer, créer. Je sais pas pourquoi j'ai dit peinturer. Mais ben, elle fait aussi des peintures. Elle va faire des dessins. Il y a des séries de dessins qu'elle va faire toute sa vie. Elle va faire beaucoup de maisons... de maison femme, qui est un peu un jeu de mots avec housewife. Donc, elle va beaucoup dessiner des corps des femmes avec des corps de maison pour un peu représenter le fait qu'elles sont coincées dedans, qu'elles soutiennent la maison. Mais en même temps, elle aime ça. T'sais, elle va toujours dire qu'elle a quand même aimé les années où elle a mis un peu l'art de côté pour s'occuper de ses enfants, puis d'avoir pris ce rôle-là, t'sais, même si... Elle avait peut-être pas le choix, elle critique, mais elle a quand même beaucoup d'amour envers ça, tu sais. Elle va faire des œuvres vraiment... vraiment, une des œuvres les plus controversées qu'elle va avoir faites, c'est une œuvre qui s'appelle Fillette, puis qui est une espèce d'immense sculpture de bronze d'un pénis qui pend. Puis la façon dont tu le vois, ça n'a pas tant juste l'air d'un pénis, ça a aussi l'air... d'être les bas de cuisse d'un enfant, genre d'une fillette.
Oh, okay.
C'est comme un entre-deux entre les deux. Puis là, elle s'était fait beaucoup reprocher d'avoir dessiné ce membre-là suspendu comme si c'était violent puis c'était méchant envers comme, les hommes, mettons. Mm-hmm. Mais là, il y a beaucoup de photos de elle qui le prend sous ses bras puis elle disait « Ben non, je les aime, les pénis puis les gars, t'sais, j'ai eu 3 gars! » Puis elle va beaucoup jouer avec ça, genre... j'ai une station ici.
Si elle avait été un homme, est-ce qu'elle se serait fait dire ça?
Oh my God, mais non, tellement pas.
C'est ça, là.
Elle joue tellement, c'est ça. Puis elle va jouer beaucoup à taquiner, OK? Elle dit ce terme-là. En fait, j'ai fait beaucoup de mes recherches basées sur une vidéo que j'ai trouvée sur YouTube qu'on va mettre dans mes sources à la fin. Puis ce qui est le fun, c'est que comme Louise, elle a été reconnue à ses 80 ans, ben on peut retrouver des vidéos. La vidéo que j'ai trouvée, c'est elle qui parle parle, des entrevues, elle parle de ses œuvres, des œuvres qu'on voit, parce qu'elle a fait beaucoup d'art aussi, t'sais, conceptuel, des grandes pièces où tu peux te promener dedans, tu peux voir. Fait que de voir la vidéo, c'est vraiment intéressant, puis de voir cette femme-là avec, t'sais, de 80 ans, avec ses rides, sa fragilité, mais tellement, c'est tellement puissant ce qu'elle dit. Puis ça, il y a une citation à un moment donné quand t'as dit, quand t'as parlé d'une œuvre qu'elle a faite en 1674, La destruction du père, again, là, ma passion pour les œuvres qui détruisent les pères, là. C'est une grande table familiale avec comme plein de, dans une espèce de grotte avec plein de morceaux sur la table. Je montre une photo en ce moment, okay, là, okay. Fanny à Jenny, là, on peut voir un peu l'espèce de ambiance.
Ça a l'air un peu squelettique.
Il passe plus de l'eau.
Ça fait peur. C'est vraiment weird. Là. Ça fait, vraiment, là. C'est pas très familial, comme ambiance.
Puis elle a dit, une citation que j'ai notée parce que je la trouve excellente, elle a dit « Si j'ai été démolie par mon père, pourquoi je ne détruirais pas les autres? » Ajouter des seins à des animaux masculins, couper des têtes, les taquiner, genre, c'est bien, c'est quelque chose qui leur rend bien, tu sais. Fait qu'elle disait que c'était les taquiner, de jouer avec la masculinité fragile. Je pense que ça la plaisait beaucoup de venir taquiner puis jouer avec ça. Puis, tu sais, je pense que rendue à son âge, elle avait vraiment... elle avait les couilles, je pense, pour dire ça.
Ouais, elle s'était coulée en bronze. Hey, je peux dire ce que je veux maintenant. Là,
ouais. Fait que c'est ça. Puis, ah oui, ben, son mari, on va remonter encore un peu, là. On va monter en 73. Son mari va décéder, puis elle va transformer sa maison en espace de création quand ses enfants sont plus vieux, puis qu'eux, là, ils peuvent partir. Elle va vraiment complètement se concentrer à son art. Elle va commencer à enseigner au Pratt Institute à New York. Puis là, ça va vraiment encore plus proliférer sa carrière. En 1982, elle va avoir sa première rétrospective au MoMA de New York. Puis c'est la première exposition qui va avoir été consacrée à une femme par le MoMA.
Ah ouais?
Ouais, donc...
En quelle année?
En 1982. Donc en 82,
c'est... Très tard.
Ouais, vraiment. Tard, mais bon. Genre, il y en a eu en masse, là, des artistes. Puis je vais essayer de trouver aussi d'autres artistes encore. J'aimerais ça vous trouver des très, très vieilles artistes pour voir, justement, vous montrer à quel point il y en avait depuis vraiment longtemps, tu sais. Fait que c'est ça. Puis cette exposition-là, ça va finir par commencer à la mettre sur la map. Puis à ce moment-là, elle a 71 ans. Là. Fait que ça, elle n'a pas été connue avant ses 71 ans.
Incroyable.
Fait qu'elle a bossé.
Ouais.
Puis c'est ça. On peut parler aussi un peu de Maman. La Maman, qui est une de ses œuvres les plus connues, une de ses œuvres les plus marquantes. Là, je montre une photo
à
Fanny puis Jenny de l'immense araignée.
Ça m'avait vraiment marqué quand je l'avais vue. J'étais comme, ah, c'est comme intense.
Ouais, pis... parce que, tu sais, quand tu vois les détails immense, aussi, tu sais, des pattes, le métal, c'est vraiment, tu sais, il n'y a rien qui est beau puis qui est neat puis qui est lisse dans son travail. Là, tout est vraiment raw puis tout est très dans la texture. Puis elle travaille ses pièces, puis elle travaille ses pièces, puis elle travaille ses pièces pour vraiment aller chercher, là, la fine ligne entre quelque chose qui va venir la toucher puis qui va venir créer un effet aussi chez les spectateurs qui vont la regarder. Puis l'araignée, pour elle, en fait, c'est ça représente sa mère. C'est pour ça, en fait, qu'elle appelle l'araignée maman. Ouais. Parce que c'est un insecte qui est protecteur. Puis aussi, c'est un insecte, c'est un animal qu'on peut tenter d'écraser souvent. Donc ça représente le côté de son père qui voulait écraser sa mère, mais aussi toute la masculinité contre tout ça. Donc ça, il y a aussi ce côté-là que je trouvais ça vraiment beau. Puis les fils, le tissage qui revient dans son histoire, moi, ça me touche, comme je suis une artiste textile, ça me touche, puis je trouve ça vraiment beau, parce qu'à la fin de sa vie, ses derniers projets, parce que finalement, elle va continuer à travailler jusqu'à ses 99 ans.
C'est
elle
fou.
Va décéder le 31 mai 2010. Puis c'est ça, elle va avoir travaillé toute sa vie, puis à la fin de sa vie, elle retourne au tissage, elle retourne au textile. Ses dernières œuvres, c'est des fresques textiles qu'elle va avoir faites. Donc, c'est
vraiment inspirant. Là,
mon petit survol de cette grande Louise Bourgeois, magnifique femme avec tellement vraiment une vigueur. Là, quand tu l'écoutes parler, là, la façon dont elle snap, là, puis elle est vraiment, elle a vraiment du caractère, puis elle est vraiment super inspirante. Fait que je conseille ça, le petit vidéo YouTube que je vais plugger, si vous voulez deep dive, mais sinon... je vous laisse aller googler au moins Louise Bourgeois pour voir un peu ses œuvres qui sont... Tu sais, là, je vous en parle, puis je suis sûre que peut-être vous allez googler, puis vous allez être comme, ah, c'est comme... C'est vraiment blanc, c'est vraiment gris, mais c'est tellement comme cru, puis c'est vraiment pas ce qu'on peut associer à quelque chose de féminin, puis doux, puis rond, comme, mettons, Niki de Saint-Phalle, où c'était vraiment... il y avait quelque chose
c'est
de
coloré,
doux, là, c'est...
quand même.
Ouais, là, c'est pas du tout ça, là.
Fait faut aussi remettre les œuvres dans leur contexte aussi, dans le temps, parce que des fois, tu regardes quelque chose aujourd'hui que t'es comme, bah, c'est rien, mais tu sais, quand tu la remets dans un contexte, quand tu la remets dans un contexte qui, comme, qui représente quelque chose qui est une réalité qui était dans une autre époque, là, tu peux mieux comprendre. Là.
Ah ouais, définitivement.
Ouais. Ben, merci pour cette belle chronique, Chloé. Super intéressant. Moi, moi, je suis fascinée. J'aime toujours ça t'écouter.
Puis encore une fois, je ne suis pas historienne. Fait que n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des
correctifs. Pas historienne, mais très passionnée.
Oui. Ou m'envoyer des suggestions si ça me ferait full plaisir. Merci.
Qui d'autre que numérique.ca pourrait bien réaliser votre site web? Deux décennies de développement et de création devraient suffire à vous convaincre. Quel que soit le secteur d'activité ou le budget, notre motivation est la même, celle d'innover et de dénicher le concept qui vous propulsera vers le succès. Pour les budgets plus modestes, nous offrons des sites web à partir de 750 $. Pour la réalisation d'un projet plus ambitieux ou pour le développement d'applications web, nos professionnels vous guideront dans votre démarche. Pour en connaître davantage sur nos services, visitez lenumérique.ca ou communiquez avec nous au 418-335-0804.
Mais ben là, on peut continuer. Je te lance-tu, Fanny, sur Garfield?
Oh, attends une minute. Ben, t'es moi, je suis pas prête, là. Mais Jenny, t'es-tu prête pour ta chronique?
Jenny, vas-y, on va parler. Je lance à Jenny. Go.
Parfait. Dans le fond, moi, je voulais vous parler du livre Project Hail Mary qui est sorti en mai 2021. Fait que je vais y aller avec mon début de chronique pour vrai, hein? ma chronique aujourd'hui pour l'épisode de Noël est vraiment dans la thématique ou pas, ça dépend vraiment. Fait que c'est une proposition lecture. Je vous parle de ma dernière lecture, c'est-à-dire le livre Project Hail Mary. En français, c'est Le projet de dernière chance. En fait, de l'auteur Andy Weir, qui est aussi, lui, d'ailleurs, le livre de Martian, basé le livre, le film. Le fameux film, avec...
Matt quelque chose, là?
C'est ça, là. Oui,
le blond, là. OK, c'est bon.
C'est ça, là. C'est un film-là. Genre, Lulu, elle a les oreilles qui grincent en ce moment. Qu'est-ce qui se passe en ce moment?
Je peux rien rattraper,
pour ceux qui nous suivent depuis un bon moment, puis qui étaient là quand j'étais encore là, parce que ça faisait trop longtemps que je n'étais pas venue, on se rappellera que j'aime les trucs qui sont post-apocalyptiques, puis que j'aime vraiment voir comment les auteurs ou les gens y voient comment va s'éteindre la population humaine.
Ouais.
Ce livre-là, il est vraiment dans cette catégorie-là. En fait, qu'est-ce qui pourrait pousser les habitants de la Terre à envoyer un vaisseau spatial à des années-lumière de la Terre si c'est pas l'extinction de la race humaine? C'est un peu ça. Fait que dans le fond, le livre, on suit Ryan Grace, un homme perdu dans l'espace qui se réveille dans un vaisseau spatial à des années-lumière de la Terre. Les deux autres habitants du vaisseau sont décédés.
Oh non.
C'est un peu trash. Hey, et il y a de cela un bon moment. Parce qu'en fait, ce qui arrive, c'est qu'il était dans un état de...
T'es-tu congelé?
C'était pas de la congélation, mais c'était un coma artificiel prolongé que seulement certaines personnes sur Terre peuvent...
C'est comme le début
vivre,
de la planète
là,
des
c'est
singes.
Comme les astronautes qui vont sur la Lune. Je comprends pas comment ils font ça, en tout cas.
Mais bref, là, il se réveille et il a oublié tout, même son nom. Il sait pas il est qui, il sait pas ce qu'il fait là, puis tranquillement, pas vite, les souvenirs lui reviennent. Le livre, il est vraiment écrit comme si on était dans la tête d'un personnage principal. Du personnage principal, c'est toute la narration intérieure. Ceci vient même dire que les gens qui n'ont pas ça, le petit dialogue intérieur, là, qui ne comprennent pas de quoi je parle, parce que c'est ça qui arrive, il y a des gens qui ne savent pas, qui n'ont pas ça. C'est vraiment un bon livre pour comprendre ce qui se passe comme dans ma tête. Parce que
il y a des gens qui n'ont pas de dialogue intérieur.
Il y a des gens... Non, j'allais te poser la question. Est-ce que tu étais au courant de ça? Il y a des gens qui pensent en image et en concept.
Ouais.
Ils n'ont pas de dialogue intérieur, ils ne se parlent pas. Ça, c'est toute une affaire.
J'ai appris
là.
Ça l'année dernière, moi, qu'il y a des gens qui n'avaient pas de dialogue intérieur, parce que tu sais, dans des films, t'entends des voix. Des...
Ben voyons, écrivez-nous. Mais, si vous n'avez pas de dialogue, on va vous interviewer.
C'est, c'est pas la moitié de la population, mais c'est un grand pourcentage quand même qui pense pas en...
C'est parce qu'on est toutes comme un peu artistiques, fait qu'on fait ça. Y a-tu comme des affaires?
Je sais pas. Faudrait qu'on pousse la
bataille. Des types de cerveau qui, ben oui, crime de bine.
Il y a vraiment beaucoup, un gros questionnement à avoir là-dessus, une bonne recherche à faire. Pourquoi c'est comme ça?
Lui, on a vraiment sa petite voix intérieure. Puis dans le fond, il ne s'agit pas d'un huis clos, parce que oui, ça se passe dans un vaisseau spatial, sauf qu'à travers les souvenirs, on se retrouve sur sur Terre, sur la planète Terre, avec dans une cour d'école, dans une classe d'école ou dans un genre labo. Il y a comme plein de... Tu te revois dans des salles de conférences, dans plein d'endroits différents. Ouais. Fait qu'on comprend grâce au flashback comment un homme que je dirais ordinaire, avec des guillemets, là, parce qu'au début du livre, on est comme, mais pourquoi? Pourquoi cet homme est là? Pourquoi cet homme-là se retrouve dans un vaisseau spatial à des années-lumière de la Terre, c'est-à-dire à 12 années-lumière? Puis, dans le fond, plus précisément dans le système solaire de Tau Ceti. Oh. Ça, c'est des choses qui existent pour vrai. Ce livre-là, ce que j'ai vraiment aimé, là, je vais revenir après de ce fait-là avec le fait qu'il y a des affaires qui sont vraies, OK? Au fil des flashbacks, on comprend que la forme de vie extraterrestre, qu'il y a une forme de vie d'extraterrestre qui se nourrit d'énergie du soleil, puis que c'est ça qui va faire que la planète va probablement vivre une nouvelle ère glaciaire. Mmh. Fait qu'il y a plusieurs experts qui ont mis sur pied le projet Hail Mary pour tenter de trouver la source et de la solution pour limiter les dégâts, pour s'assurer que la population terrestre tout animaux, toute source de vie confondue survivent. Est-ce que c'est seulement le soleil qui est touché? Est-ce que c'est d'autres formes? Est-ce qu'il y a d'autres formes de vie à l'extérieur? Est-ce qu'il y a une solution à ce problème-là? Est-ce que Grace se rappellera comment il est arrivé sur le vaisseau? Tu sais, je veux dire, tout ça, c'est des affaires qu'on va savoir. Ce que j'ai vraiment beaucoup, un des aspects que j'ai vraiment beaucoup aimé du livre, c'est l'aspect scientifique qu'il y a derrière. C'est vraiment basé sur des lieux qui existent pour vrai, ben des notions astronomie et tout qui existent pour vrai. Il y a une belle vulgarisation de certains termes de calcul scientifique ou de physique et tout. Puis moi, j'ai pu comprendre mieux les concepts parce que c'est des trucs que j'ai appris à l'école, à l'université. Okay. Fait que, tu sais, j'étais comme, ah oui, c'est vrai, j'ai vu ça dans ce cours-là. Ah oui, c'est vrai, j'ai vu ça dans ce cours-là. Fait que j'ai trouvé ça super cool que ça soit basé, puis ça représente bien la passion pour le voyage dans l'espace que l'auteur a, puis tout, parce que tous ces livres sont basés, dans l'espace. C'est tout dans l'espace. Martians dans l'espace, l'autre, il est dans l'espace, c'est quasiment tout dans l'espace. Un autre aspect que j'ai vraiment aimé du livre, c'est que c'est... Bon, semi-spoiler, là, genre, ça arrive vraiment vite dans le livre, fait que c'est pas...
Bébé spoiler, mais un petit peu de quelques secondes.
Tu sais, je veux dire, ça arrive, je pense que c'est 3e ou 4e chapitre, là. C'est vraiment rapide, là. Okay. Genre, c'est pas... Grace fait la rencontre d'un vaisseau extraterrestre. Oh. OK. Qui l'a nommé Blip A, parce que c'est comme ça que son radar appelle les choses qui ne sont pas identifiées. Genre qui A, B, C, c'est vraiment ça. Fait que c'est Blip A. Puis ce que j'ai vraiment aimé, c'est comment toute la communication se passe entre lui qui ne sait pas pourquoi il est là, puis un vaisseau spatial qui a clairement une vie
mais qui
dessus,
a aucune communication
mais
avec.
Ils ne savent pas comment se parler. Ouais. Fait que c'est toute l'espèce de développement de comment qu'on fait pour... Ça m'a beaucoup fait penser un peu à Arrival.
Ouais,
dans l'espèce de recherche de vocabulaire puis tout, mais c'est
de
comme
se
c'est j'ai trouvé ça, tu sais, comme c'est pas la même affaire, mais il y a comme cet aspect là de genre comment qu'on fait pour se comprendre, puis qu'on
le film de Denis Villeneuve que tu parlais,
tu sais, comment qu'on fait pour bâtir un dictionnaire pour être capable de communiquer ensemble. Ça, cet aspect là j'ai vraiment aimé. Fait que bref, j'ai vraiment dévoré ce livre-là deux semaines et demie. Puis genre, c'est vraiment des petits chapitres. C'est ça, c'est des petits chapitres, ça se passe dans plusieurs temps. En même temps, j'ai une redondance dans mon style de lecture, là. Genre, on comprendra.
Comment t'es arrivée à trouver ce livre-là?
C'est vraiment... je follow quelques Instagrammeuses qui ont des suggestions de livres. Puis ça faisait au moins 2 ans qu'ils étaient dans mes... Presque depuis la sortie, qu'ils étaient dans mes trucs, parce que les descriptifs que j'ai vus de plusieurs personnes, c'était vraiment dans mes cordes à fond.
Ouais.
Puis c'était super difficile au début d'avoir accès au livre, parce que moi, j'ai juste sur ma liseuse, fait que de louer le livre. J'avais juste réussi à mettre la main sur le livre en français. Puis moi, quand c'est un auteur anglophone, j'essaie toujours d'aller lire la version originale, tu sais, la version en anglais. Ouais. Fait que d'essayer de trouver celle-là, de mettre la main dessus. Puis finalement, j'ai réussi à mettre la main dessus sur ma liseuse et il y a popé comme il y a 3 semaines. J'ai fait comme, ah, ben, je vais lire ça.
En location, tu l'as pris?
Oui, en location. Okay. Fait que je l'ai pas acheté
Bibliothèque
parce que.
Nationale ou.
Ouais, mais c'est comme une plateforme, là. Quand t'as un Kubo, là, tu peux avoir accès. Okay. Avec une carte de bibliothèque, t'as accès à une banque de livres en ligne de location. Fait que. Super. Puis comme j'ai je suis pas riche parce que je dépense tout mon argent dans des billets de show. Je loue des livres.
En fait,
trouver des solutions.
Hein. Les artistes ont aussi de l'argent quand tu loues des livres et tout. Là, ils ont des redevances. Mmh, donc, c'est très bien de louer des livres.
C'est parce qu'à un moment donné, j'ai aussi pas tant d'espace pour tout ranger ces livres-là. Là. Déjà que j'ai acheté plein de livres usagés il y a une couple de semaines. Ouais. Là, fait que je suis comme, Fait que, ouais, c'est ça. Puis là, il y a Artemis, je crois que c'est le prochain livre que je vais me lancer du même auteur parce que j'ai aimé l'ambiance qu'il a donnée. Puis j'avais aimé le film de Martian, fait que je vais éventuellement lire le livre aussi.
Tu nous redonneras des nouvelles.
C'est sûr que oui, mais c'est ça. C'est ma suggestion de lecture.
Est-ce que tu peux redire le titre?
C'est le Project Hail Mary ou le projet Dernière Chance de Andy Weir. W-I-E-E-I-R. Weir.
Puis on va mettre les liens aussi dans les notes de l'épisode des
Geekettes. C'est clairement un bon cadeau pour quelqu'un qui tripe sur l'astronomie.
Ouais, c'est sûr. La sci-fi aussi.
Ouais, sci-fi, c'est sûr, mais quelqu'un aussi, genre, qui aime les trucs scientifiques. Là, mettons,
chiffres.
Je pense à mon beau-père qui tripe juste sur la science en général.
Mais c'est ce que j'aime de ces sci-fi-là, c'est que c'est tellement basé sur des trucs réalistes. Ouais. C'est pas genre en l'an 3850.
Ouais.
C'est
genre, les gens qui aiment pas les
technologie
trucs trop,
existe. C'est en l'an 2023, ouais. Mettons, qu'est-ce qui se passerait si demain matin, il arrive telle chose, la technologie qu'on a. Ah, oh, mais OK, on a des technologies secrètes parce qu'on a menti à la population. On a des petits avancées, mais tu sais,
des théories
des trucs
de
comme
ce genre
ça.
De trucs-là, c'est tellement fascinant. Là,
mais c'est
savoir
que c'est
qu'est-ce
ancré.
Qui va se passer si... qu'est-ce qui va se passer dans le monde? Là. C'est
fou, en 20 ans, ça a tellement
tout,
changé.
Un sujet tellement intéressant. Mm-hmm. Là,
c'est, j'ai aussi aimé cet aspect-là de voir comment, d'une autre façon, la planète pourrait se détruire.
Comme un petit facteur de réalisme que tu fais comme... Ouh.
Puis ça finit bien, mais ça... Puis le livre, il finit. Là, c'est pas ouvert.
Nice,
il finit, mais j'étais quand même surprise puis pas de comment ça finit. Puis j'étais comme... « Ah, j'aurais aimé ça, que ça soit autre chose, mais en même temps, c'est correct que ça soit ça. » Il y avait comme une espèce... Oui, ça fait du sens. C'était comme « Ah, ben c'est ça. »
C'est le fun des trucs qui finissent aussi, là.
Oui, c'est pas trop... C'est fini, là. Il n'y en aura pas de tome 2, là, de qu'est-ce qui se passe, là, avec je sais pas quoi.
Il
y aura
raconté son histoire, là.
Puis c'est ça, c'est tout. C'est fini. Wow. C'était bon.
Bon,
lisez-le.
Merci.
Ben là, on va le lire.
Ça donne le goût.
Ben oui. Ben merci, Jenny.
Oui. Ah, ben là, on continue.
Ben là, on pourrait
je vais
faire.
Je vais servir mon thé.
Ça fait vraiment un beau son.
Wow.
C'est juste ça. Depuis tantôt, je vais me servir du thé.
Wow, alors c'est moi qui arrive avec le gros chat orange.
Garfield.
Ben oui, là, il y a une partie des gens à la maison qui savent c'est quoi que je vais parler, d'autres qui n'ont aucune idée de ce que je vais parler. Eh bien, sachez que Garfield et Sonneville, le film d'animation, est disponible sur YouTube gratuitement en français par une chaîne qui s'appelle Le Rétroviseur.
Oh my God, yes, parce que tantôt, en m'en venant, justement, je parlais à mon fils puis mon chum Gavi qui l'avait pas vu, puis j'étais comme, oh my God, il faut tellement que vous voyez ça, là.
Ouais,
OK,
ouais.
Continue, my God, je t'excite.
Ben oui, parce que tu es une grande fan de Garfield.
Oui, j'ai un gros tatou de Garfield derrière ma cuisse. Il fait toute ma cuisse, écrit « I Life ». Tattoo de Jazz Cabbage, tattoo artist de Schlaga. Trop fière, j'adore Garfield.
Puis, écoute, je préfère une chronique entière sur Garfield parce qu'il y a tellement de choses à dire, mais je vais juste parler
spécial
du
Garfield.
Film d'animation. Spécial Garfield, hey, sérieux, on a déjà fait un spécial Archie au Geekette.
Oh, wow.
Donc, je pense qu'un spécial Garfield serait
ça
possible.
Se
faudrait faire c'est le fun. Les gens aiment ça, les spéciaux. En tout cas, je déroge TDA.
Écrivez Garfield dans les commentaires.
Ouais, c'est ça, si vous voulez qu'on parle de Garfield. Donc, c'est ça. Écoutez, en anglais, c'est Garfield. Attends, je vais dire en anglais comme il faut. Garfield is Nine Lives. Ça a été produit par Phil Roman, United Media et Paws Inc., qui est la compagnie qui fait toutes les choses que vous voyez de Garfield, qui a été créée par Jim Davis, qui est le créateur de Garfield. Donc, c'est une durée de 48 minutes, ce beau petit dessin animé-là. La première diffusion a lieu sur CBS le 22 novembre 1988. Ça fait donc 35 ans.
Je n'étais pas née. Je peux le dire. Ben, oui.
Est-ce que tu l'as vu? Tu sais,
ben, j'ai aucune idée de quoi tu me parles. Ben, fait que ça, genre, j'adore ça parce que je vais découvrir encore quelque chose de nouveau.
Je l'écoutais chaque année à Télé-Cadeau. Ciné-Cadeau.
Télé-Québec,
Ouais, c'est ça, c'est un mix des deux.
T'entends, c'est à Radio-Québec, mais ça, c'est une autre
histoire. Moi, ça m'a marqué artistiquement, mais on en avait parlé un peu, mais...
On va en reparler. Mais c'est ça, moi, ce que j'ai appris, entre autres, ben, parce que moi, j'ai fait des petites recherches Wikipédia.
Oh yes.
On aime ça. C'est inspiré d'un livre du même nom qui a été publié en 1984, en fait, par Jim Davis. Il avait vraiment fait 6 histoires. Puis, okay. Parmi les 6 histoires dans ce livre-là, la bande dessinée, dans le fond, il y en a 4 qui ont été créées pour le film. En fait, 6 qui ont été reprises, mais il y avait plus d'histoires, je pense, dans son livre. Je vous ai peut-être mêlé, c'est pas très grave, c'est des petits détails techniques. ce qui est intéressant aussi, c'est que, je sais pas... Il y avait une série télé. Moi, quand j'ai fait ma recherche, ça s'appelle Garfield and Friends.
Ouais.
Puis c'était comme Garfield avec des animaux de la ferme.
Ouais, ouais, ouais.
Puis c'est vraiment ce design-là. Ils ont repris, tu sais, le studio d'animation, ils ont repris le design de cette série télévisée-là. Et puis, ils l'ont comme réutilisé à certaines occasions, majoritairement. Là,
ouais, ouais.
Donc, je trouvais ça intéressant parce que j'avais complètement oublié cette série télé-là. Tu sais, ouais. C'est une genre de série.
Ça a été même repris plus moderne. Là. Je pense qu'ils ont repris.
Oui!
C'est revenu Garfield and Friends à la campagne, puis avec Odie.
Ah,
puis,
ça, je savais pas ça, par contre.
Oui, ouais, je pense qu'il y en a pour jeunes. Peut-être pas sur Netflix, je sais pas, là, mais dans les enfances de mes enfants, j'en ai réécouté.
Mais il y a eu beaucoup de reprises aussi.
Les plus modernes, une espèce de 3D bien liché, bien shiny.
Des fois. Ou même shiny aussi. Tu sais, il avait fait ça avec les Peanuts aussi.
Oui, oui, on dirait qu'ils sont un peu en plastique.
Ils sont comme des bonnes licences, tu lâches pas ça. Tu as aussi, ça a été diffusé de 1989 à 1994. Il y a eu 7 saisons de Garfield and Friends. Je savais pas, j'étais impressionnée. Donc, toute une génération de gens ont écouté ça. Allô, je vous salue, vous êtes ma génération. ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai remarqué que le producteur et l'animateur principal, Phil Roman, il était de descendance mexicaine. Puis ses parents, ils étaient des immigrants aux États-Unis. Puis ce qui est intéressant dans ma recherche, c'est que dans les studios d'animation en Californie, il y a beaucoup de gens, des Mexicains, Mexicaines, qui travaillaient dans les studios d'animation. Puis c'est quelque chose qu'on parle pas tant quand on parle de, ou qu'on pense pas nécessairement qu'on pense aux studios d'animation.
Ouais, ouais.
Souvent, c'est les vieux monsieur blancs qui dessinent le dos courbé sur leur planche. J'ai aussi vu qu'il y avait... il y a plusieurs femmes aussi qui ont travaillé dans le
milieu. C'est ça, j'allais dire, justement, pour aller mettre la couleur puis toutes ces affaires-là. Là, il y avait, je pense, pendant la guerre, là, qu'il y a eu beaucoup de femmes qui ont embarqué dans l'animation. Dans les...
Oui, Walt Disney ne le dira pas, là, mais ils ont fait des films de propagande aussi. Là, Donc, tu sais, les femmes aussi, tu sais, on est considérées souvent comme ayant... comme on n'est pas daltonienne, on est meilleure avec les couleurs en général. Donc, c'est pour ça que souvent les femmes étaient engagées. Mais bref, je déroge de ma chronique. Mais je trouve ça super intéressant parce que c'est ça, il y a plusieurs Mexicains qui étaient engagés dans les films d'animation, puis on en parle peu ou pas.
Ouais.
Puis, entre autres, il y a quelqu'un, il a travaillé sur plusieurs, cette personne-là, il a travaillé sur plusieurs projets télé des Peanuts, puis il connaissait aussi Bill Melendez, que j'ai parlé dans ma dernière chronique. C'était des bons amis.
Wow.
Il était très proche, puis il se refilait des contrats comme ça. Donc, je trouvais ça intéressant qu'il y a comme il soutenait entre artistes de la diversité.
Lien entre chroniques.
Ouais.
Entre comics.
C'est ça. Ce qui est drôle aussi, là, c'est que tu sais, au début du film d'animation, tu as une prise de vue réelle qui fait très, très années 80, là, très avec des genres d'effets animés dessinés sur la pellicule qui fit pas trop. Par la suite, il y a aussi l'affaire, c'est que le dessin animé, c'est que c'est différentes histoires entrecoupées. Donc, tu as différents styles d'animation avec chaque histoire. Parce que c'est ça, les 9 vies de Garfield.
C'est ça qui est particulier ce film-là. Okay. C'est que chaque histoire, c'est un style de dessin différent.
C'est cool, ça. Ça laisse la place à des visuels différents aussi.
C'était tous des réalisateurs différents aussi pour chaque petite histoire. Donc, c'était intéressant de voir, chacun a mis son style.
Ouais.
C'était quand même assez créatif. Parce que Garfield and Friends, c'était de la série. C'était pas créatif. T'as un style, tu fais ça. C'était un peu de la saucisse à dessin animé.
Oui, oui. Ça ressemblait à tout.
Oui, 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 vraiment. C'était rien de nouveau, mais ça, c'était vraiment particulier parce que tu n'étais pas habitué de voir ça. Tu vois, OK, là, c'est le début de Garfield que tu connais, de Garfield and Friends, mais là, à un moment donné, hop, c'est Garfield qui va te raconter ses vies. Donc, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que Bon, je vais tout de suite passer à la troisième histoire parce que les deux premières, c'est vraiment dans le même style qu'on connaît. Puis là, oh, à partir de la troisième, c'est comme un style un peu psychédélique, années 70.
C'est le jazz, le chablou, c'est le gaffe.
Non,
bleu.
C'est pas celui-là.
OK.
j'y arrive.
Elle ne vole pas les punches.
Mais tu sais, il ressemble un peu au style original, mais il y a quelque chose de bizarre.
Parce que Garfield, il change là, vraiment ouais. physiquement dans chaque histoire.
Okay. Ouais.
C'est comme des fois, il est bleu, des fois, il est blanc, des fois, il est roux, mais comme d'un style complètement différent. Fait que des fois, il parle comme Garfield, on connaît, mais des fois, ouais. il est vraiment félin, comme si c'était un chat, mettons, réel. Fait que ça va dans vraiment plein de directions. Là.
Ouais, vraiment, des directions artistiques différentes.
Ça donne l'impression de regarder comme des courts-métrages d'animation.
Ouais, vraiment. Ouais, ouais, c'est vraiment
ça. Une variation sur un même thème, là.
Ouais. Tu sais, dans le quatrième, ça s'appelle Court Musician. Puis c'est un style plus Flintstone, UPA, pour les gens qui connaissent l'animation, un peu Jetson, tu sais. C'est vraiment un style plus à plat. Puis c'est ça, tu reconnais pas nécessairement Garfield parce que c'est son autre vie, dans le fond, là. Donc, c'est quand même super intéressant. Il y en a un qui, c'est vraiment niaiseux. Le cinquième, ça s'appelle Stunt Cat. C'est vraiment sketché, brouillé, un peu comme les premiers Mickey Mouse, les premiers dessins animés. Puis c'est vraiment juste une joke niaiseuse qui font, je la dirai pas, à l'écouter, là, ça dure comme 10 secondes, qui est très drôle. Je trouvais ça très rigolo. Puis c'est vraiment un style d'animation années 10-20, là, où est-ce que c'est ça, tu reconnais pas vraiment Garfield, là. Puis ensuite, t'en as un qui, personnellement, c'est ma préférée, puis que je l'aurais écouté. Et que c'est une histoire très triste, c'est Diana's Piano. C'est vraiment un style pastel, crayon de bois. C'est un peu saccadé.
La petite face à Chloé, ça veut tout dire. Je suis comme...
Ben, en fait, c'est celui qui te surprend un peu parce que tu arrives vraiment dans un autre ton qui est vraiment plus triste. Puis moi, dès que je l'ai réécouté, je me suis mis à pleurer parce que c'est très triste.
Je trouve que là-dedans, Garfield, c'est un animal de support. C'est oui. là que tu vois que c'est un support émotionnel. Genre parce que justement, pour la petite pianiste...
Oui, parce que l'histoire, c'est que c'est une petite pianiste, justement. Puis là, elle a son chat de support.
Puis elle est blanche, elle est douce.
Oui, puis c'est une fille aussi. Ouais. C'est la seule histoire où est-ce que Garfield est une femme, dans le fond. Puis,
c'est une petite fluffy blanche.
Oui, c'est super beau. Puis il y en a un autre par la suite, c'est Lab Animal, parce que ils ont tout nommé. C'est comme si t'as des courts-métrages. Puis c'est vraiment un style un petit peu plus Don Bluth, Studio Walt Disney. Pensez à Petit Pied le dinosaure, Anastasia. Ouais. Ce style-là, carrément, il est vraiment épeurant, horreur. C'est pas Garfield. Tu sais, vraiment, c'est ça que j'aimais sur ce dessin animé-là, c'est que c'est vraiment, il sort du lot. Puis il est un peu rétro. Pas tout le monde le connaît. On l'a écouté à Ciné-Cadeau, mais c'est pas tout le monde qui le connaît. Mais on a tous été marqués par un des dessins animés qui était un peu
court-métrage. Ouais, il y en a un qui va faire « Oh mon Dieu, ça, je m'en souviens. »
Lui, je vais m'en souvenir, ouais. Il va me surprendre.
Et le lab, souvent, il marque parce que c'est comme... Là, ouais, tu vois Garfield qui se sauve d'un labo d'expérience. Puis là, il y a comme plein d'animaux dans les cages, ça crie, il saute par-dessus les clôtures, les chiens.
Puis là, il arrive une finale, t'es comme « Oh mon Dieu! » Puis là, c'est ça. Ouais. Bon, j'en dirai pas plus, allez le voir.
Mais c'est moi de l'écouter, dites-moi pas d'autre!
Mais c'est ça, fait que c'est vraiment, tu sais, ce qui m'a marqué, c'est sûr, c'est un dessin animé qui passait à Ciné-Cadeau dans ces années-là. C'était surprenant, j'ai dit, là, c'est surprenant, tu t'attends pas à ça de Garfield. T'es comme, c'est un peu bizarre, c'est un peu champ gauche. T'es comme, pourquoi ils ont fait ça, tu sais? Puis bon, tu vois vraiment qu'il y avait un petit procédé créatif. C'est sûr que c'est pas un grand dessin animé. Je veux dire, tu changes pas la roue, ça reste un Garfield. Mais c'est un bon dessin animé à mettre en famille, avec un petit chocolat chaud. Hey, t'as jamais écouté ça? Je vais te le faire écouter. Ça va être le fun. Ça dure 45 minutes. C'est pas long. Après, tu vas faire dodo.
Puis c'est vraiment une saveur différente. Là. Comme tu dis, ça ressemble à rien au nouveau film d'animation qui se fait aujourd'hui. C'est quelque chose de juste vraiment différent. Fait que je pense
expérimental
que
un peu, là, des fois, c'est barre. Là,
ouais. Moi, c'est sûr que je vais l'essayer là, avec mon 5 et 10 ans. Là.
Ouais.
Je pense que ça va les allumer. J'ai hâte. Je suis trop contente de
savoir
que
5, c'est pas trop jeune pour
YouTube. C'est sûr qu'elle va avoir
ça
peur.
Dépend de son
niveau, elle va crier, elle va aller dans la chambre, puis elle va genre puis elle va revenir après. Puis elle va
je pose la question pour mon neveu, parce que je me dis je m'en vais aussi passer les fêtes, puis ça pourrait être cool de... Tu sais, comme 45 minutes, il va peut-être être capable de s'asseoir pendant 45 minutes. Oui. Ça serait... Il est très actif.
Mais à chaque fois que l'animation, elle change, il va revenir.
C'est ça qui est
intéressant. Fait que s'il y a un bout qui a peur, il va partir, il va revenir. Comme au cinéma, ce serait l'enfer, mais à la maison, ça va être parfait. Moi, je pense que...
Je vais peut-être rajouter ça à la liste des potentielles petites écoutes du temps des fêtes.
Puis là, je vais finir ma chronique, mesdames, avec ma question qui est... Vous, là, avez-vous un dessin animé ou un film de Noël préféré?
Bonne question. Dieu.
Je
il y a comme le classique, là, genre, c'est sur les traces du Père Noël. Là, on dirait que ça, là, je pourrais le remettre tout le temps. Là, genre, parce que
c'est un dessin animé?
Non, c'est un film en vrai, mais c'est comme un des premiers films de Noël qui est pas... qui était comme pas un vieux film de Noël que j'ai écouté, que je me rappelle que c'était comme un nouveau film de Noël, puis j'étais comme, ah, oh, ça, genre, puis j'étais dans l'âge aussi de l'écouter, mais moi, dans le temps des fêtes, généralement, j'aime ça me taper les Star Wars.
Mmh. Ah,
mais
ouais,
c'est
mais
pas les films de Noël.
Ouais, moi, j'aime écouter les Harry Potter, j'aime écouter des séries, le Planète des singes.
Mais c'est drôle que vous parliez de ça, parce que j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de gens qui aimaient Le Seigneur des Anneaux aussi comme film de Noël.
Oui, c'est ça, faire des marathons.
Je pense que c'est ça.
Ouais, t'as du temps.
C'est le temps où j'ai le temps de faire un marathon. Là. Fait que je sais pas lequel je vais faire cette année. Là. Je sais pas, je vais avoir le temps d'en faire un, mais...
Je pense que c'est plus les films d'animation aussi que je vais aimer réécouter. Anastasia, c'est un de mes préférés aussi. Puis comme il est en hiver, il fait très Noël.
Ouais. Je devrais tellement le réécouter parce que j'ai des belles histoires avec ma sœur. Elle avait tellement peur de Rasputin.
Ben là, avec raison.
Je sais plus quel âge on avait, là, mais je sais que même encore aujourd'hui, je vais dire Rasputin à ma sœur, puis elle va faire comme non. Et ma sœur a aujourd'hui 31 ans.
Ben oui, même une photo là, de Rasputin, c'est effrayant.
Non. Mais peut-être mettre ça sur la liste.
C'est drôle, je le connais, j'ai vu des extraits d'Anastasia, mais je l'ai jamais
vu. On l'a vu au cinéma, nous autres. Ma sœur n'a pas aimé ça. Là.
Hein, c'est clair.
Mais c'est intéressant parce que le producteur de ce film-là, justement, c'est comme l'espèce de compétition, entre guillemets, à Disney. Il a fait plein de films dans les années 80. Je vais peut-être faire une autre chronique sur
parce
lui.
L'animation est vraiment belle dans Anastasia. Il y a beaucoup de
C'était-tu de la même affaire que, mettons, le Troll à Central Park? Puis,
oh my God, le Troll à Central Park!
Ouais, j'en sens Ding! Des...
c'est
comme le même look. Puis genre, Fievel au Far West.
Oui, c'est tout le même.
Oh my God, Fievel au Far West. Regarde, oublie!
Faudrait que je regarde, je pense que ma mère, elle a encore les VHS.
Ouais, moi aussi, je les avais en cassette.
c'est super intéressant comme producteur. Mais Chloé, t'as-tu un film de Noël?
Ben, ça serait ça, là. Moi aussi, des marathons de trucs ou des vieux films d'animation. J'ai trippé Anastasia.
La Shrek aussi,
qui est là, un gros classique très hit de ma génération.
Moi, je me rappelle de...
Mais... Sinon, c'est pas vrai, j'aime aussi les films de Noël qui sont des faux films de Noël, comme les Die Hard, là. Les affaires vraiment cheesy même. Là. Ça aussi, ça peut être un bon bonbon, là.
Un bon bonbon
qui éteint, là.
C'est drôle quand même. Moi, je me rappelle, Elves avec Will Ferrell.
Ah, ouais.
Je me souviens que ça aussi, c'est un film de Noël, comme nouveau film que je découvrais, que j'étais vraiment surprise, qui me faisait vraiment rire. J'aime tellement Will Ferrell là-dedans.
Sûrement.
Donc, c'est ça. Est-ce que ça conclut notre épisode de Geekette?
Ben,
je pense que oui.
Oh, mon Dieu.
Allez vous faire un petit eggnog, là.
Ah, il faut de... Oui, moi, j'aimerais ça la refaire, la recette. Mmh. La bien la réussir.
Mmh. On devrait se faire un Noël en été, là, puis s'en faire un...
Ouais.
Noël en juillet, là.
Bon, écoutez, les filles, ça termine l'épisode de Noël. Quasi Noël.
Quasi-ish Noël.
Ish Noël, juste
saupoudré d'un petit peu de Noël. Ho, ho, ho!
Mais, je vais m'amuser à mettre des sound effects, s'il te plaît, la musique, tout ça. Inquiétez-vous pas, moi, tout faire ça au montage.
Tu rajouteras des petites photos, des petits chapeaux de
Noël. Oui, c'est sûr.
De Noël sur la photo de l'épisode, puis tout, là.
C'est tout prévu dans ma tête, vous savez pas, mais j'ai toutes ces idées.
Parfait. J'adore ça.
Ça va être un beau cadeau.
Donc, les Geekettes, où est-ce qu'on peut nous retrouver? On a un site web, Geekettes, avec un S.ca. On est sur Facebook, Instagram, mais tu sais, là, il y a peut-être quelqu'un qui va s'en occuper. Fait que
je vais vous faire activer l'Instagram, je vais vous faire réagir, commenter, liker, vous allez voir.
Ouais. Donc, c'est ça, on a un Patreon aussi, on n'en a pas parlé. Si ça vous tente, Patreon, cadeau de Noël, on en avait parlé la dernière fois.
C'est des cool petits cadeaux de Noël, des abonnements Patreon, pourquoi pas? Offrir du contenu aux gens qu'on aime, comme des billets de spectacle.
Oui.
Billets de spectacle de burlesque, hein?
Ben oui, on revient.
Petit cadeau, pourquoi pas?
Toutes les shows. Sauf le country. Je veux pas voir de shows de country. Donnez-moi tous des billets de shows, sauf le country.
Tu vois, moi, j'échangerais le country contre le métal.
À chacun son style! Non, j'ai déjà travaillé dans un festival country, puis j'ai détesté mon existence.
My God. Cet été, je vais vous reparler de l'asso. Je vais aller à l'asso.
Parfait.
Mais écoutez. sur ce beau miaulement. Donc, ça termine notre épisode de Noël. Ish, des geekettes! Alors, on dit au revoir à tout le monde.
Bye!
La vie secrète des geekettes. La vie secrète des geekettes.